c'est pas du vent. Anne-Cécile Bras, François Porcheron.
Bonjour, l'amiante tue encore plus de 100 000 personnes dans le monde chaque année. Pourtant, la dangerosité de ce matériau fibreux, principalement utilisé comme isolant dans le bâtiment, est connue depuis le début du XXe siècle. 52 pays ont à ce jour interdit son utilisation, mais dans d'autres, tout est permis. Alors pourquoi ce produit est-il dangereux? Où en sont les revendications des victimes européennes? Et que se passe-t-il ailleurs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Pour moi, tout a commencé en 1974. À ma grande fierté, j'ai été embauché chez Eternit. Travailler chez Eternit, ça signifiait avoir un emploi stable, comme ceux de chez Fiat. Oui, comme chez Fiat. La première chose que j'ai remarquée en entrant dans cette usine, c'est que l'avis de décès qui était affiché à l'entrée du bâtiment changeait tous les deux jours. Moi, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils meurent tous avant 60 ans?
À cette époque-là, on ne se posait pas de questions. Les ouvriers tombaient malades, ils mouraient, et on considérait que c'était normal. Finalement, c'était le sort de l'ouvrier. Je me répète souvent ça. Quand un ouvrier tombait malade, on disait, il faisait quoi? Il travaillait à l'usine, il bossait à la mine, il travaillait chez Eternit. D'accord? Et il passe quoi comme film au ciné ce soir? On va voir ça alors? Et la discussion était terminée.
Un jour, par curiosité, je suis allé voir l'entrepôt dans lequel arrivaient les sacs d'amiante. Ce jour-là, j'ai vu un homme assis sur un sac. Il avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Franchement, on avait l'impression qu'il avait 70 ans. Pietro Marengo. Son air jovial et sa grande bonhomie. On pouvait voir la fatigue d'un homme auquel le travail avait tout pris. La capacité respiratoire, l'espérance de vie, les rêves, on lui avait tout enlevé. Et en me voyant aussi jeune, il m'a dit en dialecte, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi? T'es venu mourir aussi? Il est décédé 2 ans plus tard, Pietro Marengo. Et sur les 57 porteurs de sacs d'amiante de l'époque, il n'y en a pas beaucoup qui sont arrivés jusqu'à la retraite.
Ce témoignage de Nicolas Pondrano est extrait du documentaire « Poussière mortelle, le grand procès de l'amiante » qui sera diffusé mardi prochain sur Arte à 20h40. Bonjour Annie Thébaumoni.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut français de la santé et de la recherche médicale. Vous travaillez sur les liens entre risque industriel et santé et vous suivez le dossier de l'amiante depuis plus de 30 ans. À vos côtés, Jean-Paul Tessonnière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat et c'est vous qui avez plaidé au procès des victimes de l'amiante qui a eu lieu à Turin pour représenter les victimes françaises. Nous allons en parler. Le verdict est attendu en février prochain. Alors Annie Thébaumoni, tout d'abord, où trouve-t-on de l'amiante et à quoi sert-elle?
Alors l'amiante se trouve dans des mines, des carrières. C'est un minéral fibreux et les propriétés de ce minéral en font un très bon isolant. Le gros problème de l'amiante, c'est sa toxicité. C'est-à-dire que c'est une fibre dure, fine, qui donc pénètre notamment dans l'appareil respiratoire et provoque deux types de maladies, ce qu'on appelle les fibroses, asbestose, plaques pleurales, épaississements pleuraux, qui sont une forme d'inflammation de la membrane pulmonaire et de la membrane et de la plèvre, et puis des cancers, donc le cancer tristement célèbre, le mésothéliome de la plèvre, du péritoine ou du péricarde, le cancer du poumon, le cancer du larynx, le cancer des ovaires et très probablement des cancers digestifs.
Alors les personnes qui ont ces maladies sont évidemment les ouvriers des mines, hein, ce sont les victimes, mais aussi les personnes qui travaillent dans le bâtiment, Jean-Paul Tessonnière.
Oui, enfin, les ouvriers qui travaillent surtout dans les usines de transformation de l'amiante, de fabrication de produits d'amiante, et sans doute la concentration la plus forte des victimes se trouve dans les chantiers navals, et où donc les salariés ont été exposés également de façon importante. Ceci dit, on peut comme ça pointer les entreprises ou les activités qui ont été les plus polluantes. Il faut retenir que d'une manière générale, chaque fois qu'on a utilisé la chaleur dans le processus de fabrication, dont je pense par exemple aux fourneaux, aux aciéries, à toute la métallurgie, eh bien on a utilisé massivement de l'amiante pour calorifuger, et à partir de là, les salariés, les ouvriers qui ont travaillé dans ces conditions ont été exposés à l'inhalation de poussière d'amiante. C'est la raison pour laquelle il y a dans les pays industriels autant de victimes.
Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la fin des années 90 pour que sa dangerosité soit avérée ?
En fait, sa dangerosité était avérée depuis beaucoup plus longtemps que ça. Dès la fin du 19e siècle, des médecins étaient alertés par rapport à ça. En 1905, en France, on a un inspecteur du travail qui constate 50 décès par asbestose dans l'entreprise Ferrodo à Condé-sur-Noireau. Et dans les années 30, les industriels anglo-saxons font faire des recherches sur la relation avec le cancer et ont toutes les preuves que l'amiante donne le cancer. Ils ont gardé ces résultats sous le coude et il a fallu en fait tout d'abord un chercheur de santé publique dans les années 60 qui met en évidence la relation entre l'exposition à l'amiante chez les travailleurs de l'isolation à New York et les cancers du poumon et les mésothéliomes d'une part, et d'autre part ensuite des mouvements sociaux qui ont conduit à ce que dans des pays européens, et la France n'a pas été l'un des premiers pays à interdire l'amiante, il a fallu des mouvements sociaux, des victimes, des travailleurs atteints pour que, enfin, ce soit considéré comme un problème de santé publique.
En fait, la dangerosité était avérée, mais elle n'était pas reconnue. Alors, est-ce que le fait que ce soit une maladie d'ouvrier a joué ?
Bien sûr, on a une situation en France en particulier qui est que les risques du travail sont des risques naturels, entre guillemets, et ne sont pas mis en question d'un point de vue de santé publique. Et donc il a fallu attendre aussi que des professeurs de collège soient atteints pour qu'il y ait une prise de conscience plus large sur le fait que l'amiante ne menaçait pas seulement les ouvriers, mais menaçait aussi toute la population qui se trouvait exposée dans les bâtiments, floqués à l'amiante.
On pense à l'université de Jussieu, par exemple. Donc là, ça touchait des chercheurs, peut-être des catégories plus prestigieuses que les ouvriers, en tout cas qui avaient plus l'opportunité de se faire entendre.
Tout à fait. C'est-à-dire que si ça a commencé à Jussieu, c'est parce que des chercheurs avaient la possibilité d'avoir l'information et se sont rendus compte très vite du problème. Mais au même moment, des ouvriers, des ouvrières mouraient à Misol, à Clermont-Ferrand ou à Condé-sur-Noireau, dans l'indifférence générale, y compris du point de vue des autorités de santé publique.
Oui, alors on parle de catastrophe parce qu'on parle de, à peu près, rien que pour la France, de 100 000 morts.
Oui, actuellement, ce sont les chiffres entre 1995 et 2025. Avant, on ne sait pas. Et en 1906, Auribeau déjà avait remarqué 50 décès dans une usine, dans une seule usine. Donc on voit bien que en réalité, ce sont des centaines de milliers, voire des millions de morts qu'il faudrait énumérer ou compter, comptabiliser sur le plan national. Mais le problème rebondit dans les années 70, lorsque effectivement les chercheurs de Jussieu font la liaison avec l'usine à Misol où sont exposés des ouvriers à l'amiante dans des conditions épouvantables qui ressemblent assez d'ailleurs à la situation décrite en 1906 par Auribeau, et là il y a un deuxième mouvement qui va aboutir à une réglementation, mais une réglementation a minima qui ne sera pas appliquée ou mal appliquée par les industriels. Et le scandale va retomber un petit peu pour rejaillir finalement lorsque Julian Peto, qui est un épidémiologiste britannique, publiera dans Le Monde une étude en indiquant entre 1995 et 2025 il y aura en France 100 000 morts dues à l'exploitation industrielle de l'amiante. Et là c'est une sorte de stupeur parce que personne ne les a vus venir. Si on prend les statistiques de la sécurité sociale à l'époque, il n'y a pas de maladie professionnelle amiante, ou en tout cas quelques unités, une dizaine par an, alors qu'en réalité, c'est plusieurs milliers de personnes qui décèdent d'ores et déjà à cause de l'amiante.
Pour nous écrire, c'est pasduvent@rfi.fr.
Nous parlons de l'amiante aujourd'hui dans C'est pas du vent, un matériau que les habitants de la ville de Monferrato Casale, dans le Piémont, en Italie, connaissent bien. Pendant des décennies, ils ont vécu sous son emprise, employés de l'immense usine Eternit, spécialisée dans la fabrication de fibro-ciment. Ils travaillaient sans protection et le soir, ils ramenaient dans leur famille un bleu de travail couvert de poussière blanche. L'usine a fermé en 1986 et grâce à la ténacité de simples citoyens et du procureur Raffaele Guarinello, le plus grand procès pénal de l'amiante s'est ouvert à Turin en 2009.
La procédure pénale intentée contre l'entreprise Eternit comprend à la fois les délits d'homicide involontaire, de lésions corporelles par négligence, de désastres sanitaires et d'omissions délictueuses de mesures sécuritaires contre les accidents du travail. Nous avons intenté cette procédure pénale contre une société qui, à l'époque, avait des usines dans plusieurs pays. Et c'est sur cet aspect que nous avons basé notre travail. Nous ne voulions plus seulement incriminer les dirigeants nationaux, mais nous voulions rendre responsables les propriétaires et les actionnaires majoritaires de l'entreprise en question. Selon moi, si les institutions d'un pays n'imposent pas leur présence, il est inévitable qu'à un moment ou à un autre, les entreprises pensent qu'elles peuvent ignorer les lois sans qu'il y ait de conséquences.
Ce témoignage est extrait du documentaire Poussière mortelle, le grand procès de l'amiante d'Arte. Alors Jean-Paul Tessonnière, vous avez représenté les victimes italiennes dans ce procès que l'on peut qualifier de unique au monde. Alors on voit dans ce documentaire qui sera diffusé mardi prochain sur Arte que l'ambiance est extrêmement tendue. Et ce qui frappe tout d'abord, c'est que les responsables ne sont pas présents.
Oui, c'est une particularité de la procédure italienne que il est possible de, en matière pénale, de juger les gens, même pour des délits ou des crimes importants, de les juger en leur absence. Et donc, ils étaient représentés par leurs avocats. Et effectivement, tout laisse à penser qu'ils ne se présenteront pas non plus pour entendre le jugement qui sera rendu le 13 février prochain.
On l'a appris cette semaine. Hein. Voilà, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez plaidé?
Ma présence en Italie, aux côtés des avocats italiens, en particulier de Sergio Bonetto, qui représente un nombre important de victimes, était symbolique. Il y avait également à mes côtés des avocats belges, des avocats suisses, et donc des avocats qui travaillaient dans leur pays sur des dossiers Eternit qui ressemblent étrangement aux dossiers Eternit qui étaient jugés au tribunal de Turin. Donc notre présence était le symbole de cela, c'est-à-dire que au-delà, et le procureur Guarignello le dit très bien, au-delà du cas de Casale et Monferrato et de quelques établissements en Italie, il y a symboliquement le procès de la société ou du groupe Eternit plus exactement, qui est un groupe international qui a exploité l'amiante exactement dans les mêmes conditions, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, en Italie et dans de très nombreux autres pays également, pas seulement en Europe, et qui a exposé les salariés donc dans les mêmes conditions. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que il y ait ce type de procès finalement dans un seul pays. Et donc nous avons considéré que le grand procès de Turin était en réalité le procès qu'il fallait mener dans tous les pays concernés à l'égard des dirigeants qui, de façon consciente, avaient exposé les salariés à un danger mortel.
Alors, l'argument des avocats des industriels est de dire on ne peut pas juger l'histoire.
Non, mais précisément, je crois que, bien sûr, il y a toujours un danger à juger l'histoire, parce que on juge à partir de là, à partir d'idées qui sont les idées d'aujourd'hui pour des faits qui sont des faits du passé. Mais là, nous avons, et l'accusation à Turin a bien fait les choses, nous avons des documents qui démontrent très exactement quel était à la fois l'état des connaissances dans chaque pays, en particulier en Italie, des industriels sur les dangers de l'amiante. Annie a dit tout tout à l'heure, de quelle manière finalement on est capable de faire une chronologie extrêmement exacte de la façon dont ont été acquises les connaissances, notamment à l'initiative parfois des industriels qui souhaitaient savoir ce qui allait se passer, mais lesquels industriels, quand ils ont eu des rapports qui mettaient en cause très gravement l'amiante comme un matériau avec des effets mortels, ont caché délibérément également ces effets. Donc on a là véritablement, sur plusieurs dizaines d'années, une entreprise concertée d'étouffement de la vérité qui produit des effets catastrophiques en termes, bien entendu, sanitaires.
Alors, Anita Beaumoni, vous êtes chercheur à l'INSERM, hein, je le disais au début de l'émission. Donc, au-delà du cas de l'amiante, vous, ce qui vous intéresse, entre autres, dans ce procès, c'est la notion de désastre volontaire, puisque c'est l'un des chefs d'accusation qui pourrait être porteur pour d'autres risques industriels.
Alors, tout à fait. De mon point de vue, comme chercheur en santé publique, il me paraît très très important qu'à travers ce procès soit mis en évidence le fait qu'on n'est pas dans une situation d'ignorance des risques, ce qui est le cas pour la silice, qui est le cas pour de très nombreux produits utilisés dans la métallurgie, dans la chimie, et cette situation d'impunité des industriels par rapport à des risques connus et qui sont introduits délibérément dans le travail, dans la production et aussi dans la consommation, à un moment donné, c'est vrai que là, la justice a quelque chose à dire. Et de mon point de vue de chercheur en santé publique, ce procès, c'est un travail de prévention.
Donc, verdict le 13 février prochain. Jean-Paul Tessonnière, en France, il n'y a pas eu de procès de ce type-là. Par contre, les victimes ont été indemnisées, même si aujourd'hui, leur régime d'indemnisation est un peu remis en cause.
Oui, la bataille a été menée en France à partir de 1996 sur deux terrains. D'une part, le terrain de l'indemnisation, et là il y avait urgence, il y avait une sorte d'urgence sociale à reconnaître les maladies professionnelles, à reconnaître les souffrances des victimes et à les indemniser décemment. Alors qu'on était dans une situation finalement de désert social puisque les victimes n'étaient ni reconnues ni indemnisées.
Mais aujourd'hui, on leur réclame de l'argent.
Oui, alors là il y a une situation très particulière qui est liée à un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation avec des effets particuliers locaux à la Cour d'appel de Douai. J'espère que, compte tenu de ces circonstances, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aura la décence de ne pas réclamer aux victimes le remboursement d'une partie des indemnisations qu'ils ont reçues. Mais cet incident récent dont on a beaucoup parlé ne doit pas cacher la réalité qui est qu'en France, à la suite des batailles menées par les associations de victimes et des procès menés devant les tribunaux, la jurisprudence s'est retournée et alors que les victimes n'étaient ni reconnues ni indemnisées au début des années 90, la Cour de cassation a couronné cet édifice en reconnaissant une obligation de sécurité de résultat de l'employeur, donc en renforçant les droits des victimes en matière d'accident de travail et de maladie professionnelle. Et aujourd'hui, les victimes en France sont, d'une manière générale, reconnues et plutôt correctement indemnisés si on fait la comparaison avec des autres pays. Par contre, c'est sur le plan pénal que nous sommes en panne. Et c'est là que nous espérons que le procès de Turin va nous permettre de nous tirer un petit peu de l'ornière dans laquelle nous sommes enfoncés.
Alors très rapidement, les victimes françaises, oui, mais les victimes de la métropole, parce que par exemple en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas le cas.
Vous avez tout à fait raison de souligner cette question, parce que en Nouvelle-Calédonie, on est en présence de terres amiantées et un certain nombre d'entreprises ont exposé des salariés à des dangers graves avec comme conséquence des maladies mortelles. Très récemment, le tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie vient de reconnaître la faute inexcusable des sociétés, je crois, Dumez et de la société Le Nickel, précisément pour ne pas avoir assuré la protection des salariés qui travaillaient sous leur responsabilité. Ce sont des jugements importants. L'ADEVA Nouvelle-Calédonie travaille d'ailleurs très activement à la défense des victimes, et il faut noter que nous venons d'obtenir donc un succès qui doit être souligné. Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, en Nouvelle-Calédonie, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne fonctionne pas et que c'est une rupture du principe d'égalité et un scandale pour les populations calédoniennes.
Voilà pour la situation dans certains pays d'Europe, mais sur d'autres continents, la situation est bien pire puisque l'amiante continue à être utilisée, notamment en Afrique. Restez sur RFI, on se retrouve après un point complet sur l'actualité. C'est une question de santé publique. À tout de suite. Thank you.